Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosumba.
Pas de panique, il n'y a pas de cas de Covid testé et répertorié en RDC en ce moment. Précision du responsable de la prise en charge des malades au sein du secrétariat technique de la Riposte. Dr Jean-Marie Kaimbe invite la population au calme et à faire confiance au ministère de la Santé. Affaire de détournement présumé concernant les forages et lampadaires en RDC. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local dit apprécier la mise en détention des présumés auteurs dans cette affaire, mais exprime tout de même des inquiétudes quant à la tournure que prend l'enquête. Et puis, campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, elle est organisée depuis lundi 1er juillet par le centre hospitalier Moncole de Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Dr Céline Tendobi, gynécologue obstétricienne dans cet hôpital. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette mise au point du responsable de la prise en charge des malades au sein du secrétariat technique de la Riposte. Il n'y a pas encore des cas de Covid testés et répertoriés en RDC en ce moment, assure le docteur Jean-Marie Kaimbe. Il ajoute que les alertes lancées notamment par le programme de l'hygiène aux frontières ont pour but de renforcer la surveillance aux portes d'entrée et de sortie du pays. Cela pour ne pas être surpris alors que des cas de cette maladie commencent à se manifester dans certains pays d'Afrique et dans le monde. Le docteur Jean-Marie Kaimbe invite la population au calme et à faire confiance au ministère de la Santé. Il le dit à Babel Mpongo Masimango.
On n'a pas encore testé des cas de Covid, étant donné que le test Covid n'est pas encore passé dans la routine médicale chez nous. Mais vous vous souvenez que le Covid que nous avons connu il y a 2-3 ans, ça a été essentiellement et d'abord un Covid d'importation à nos frontières. Aujourd'hui, on parle des cas de Covid en France, aux États-Unis, etc. Quand les jeunes aux frontières demandent une certaine vigilance, c'est bon, dans le sens que les personnes qui viendraient présentant quelques signes comme la fièvre, la toux, etc., puissent être conseillés d'approcher les structures médicales. L'attention est attirée parce que la prévention vaut toujours mieux que de nous jeter dans les traitements, encore que vous savez très bien qu'on n'a pas eu de traitement spécifique pour cette pathologie. Et il y a déjà des mesures habituelles, le lavage de mains. Des personnes qui présentent une toux avec fièvre, etc., devraient, lorsqu'elles sont en public, porter un masque. Le ministère de la Santé est aux aguets et donnera en temps utile des informations sur les mesures à renforcer en cas de besoin.
Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, le centre de santé de référence de Kanyabayonga, situé au quartier Kanyati, a été pillé la nuit de dimanche à lundi par des rebelles du M23. C'était l'unique structure sanitaire viable dans cette commune rurale et sa périphérie. Des sources locales indiquent qu'une grande quantité de médicaments a été emportée. Il en est de même du matériel de laboratoire, des kits informatiques, des matelas et autres objets de valeur. Des sources proches de cet établissement sanitaire plaident pour une intervention urgente des humanitaires pour réhabiliter ce centre de santé afin de faciliter la prise en charge des malades. Par ailleurs, les structures médicales de 11 aires de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Katoï-Kibabi dans le territoire de Masisi sont en rupture de stock en médicaments depuis plusieurs mois. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Les sources sanitaires de ce secteur qui livrent l'information précisent que cette situation est consécutive à l'insécurité qui ne permet pas l'accès des humanitaires dans la zone. Le point avec Gabriel Ouamenia.
Au total, 11 structures médicales sur le 22 que compte la zone de santé de Katoï-Kibabi connaissent une pénurie criante en médicaments essentiels depuis plusieurs mois, confirment les sources médicales de la zone de santé de Katoï. Hormis l'ONG Joanitaire qui subventionne les quelques aires de santé en médicaments essentiels contre le paludisme, d'autres aires de santé sont confrontées aux ruptures totales des stocks en médicaments. L'insécurité grandissante dans le secteur de Mufuni-Kibabi causée par la présence et des groupes armés ainsi que l'occupation de quelques villages par les rebelles du M23 ne permettent pas aux ONG humanitaires et leurs partenaires d'accéder à la zone. Conséquence, les populations déplacées ou retournées qui vivent dans une extrême pauvreté dans ces aires de santé recourent aux traitements indigènes contre les pathologies récurrentes comme le paludisme, la diarrhée bacillaire ainsi que la dysenterie amibienne. Les autorités sanitaires de la zone de santé de Katoï-Kibabi redoutent des décès en cascade et plaide pour que la situation sanitaire de ce secteur soit sérieusement prise en compte par les autorités. Goma, Gabriel Wameya, Radio Kapi.
Et puis, nous sommes bien le 3 juillet aujourd'hui et c'est la journée mondiale de lutte contre les déchets en plastique. À Kinshasa, quelques sociétés s'occupent de l'évacuation de ces déchets, parmi lesquelles se trouvent la société Okeplast et Kintoko. Mais visiblement, leur rapport n'a pas encore réussi à résoudre le problème d'insalubrité dans la capitale. Détail dans ce reportage de Plamedi Mbiavanga.
Kinshasa, autrefois appelé Kinlabel, est devenu, au dire des plusieurs, presque une poubelle à ciel ouvert. C'est surtout après la pluie que la ville démontre son désastre. Plusieurs artères sont inondées et jonchées de déchets tels que de bouteilles en plastique et autres sachets. Dans certains endroits, de poubelles sont installées, mais de nombreux quinois n'en font pas usage. Conséquence, les rivières qui traversent la ville sont envahies par ces bouteilles et autres. Les caniveaux sont quasiment bouchés. Quelques sociétés s'évertuent à évacuer ces déchets. Mais problème, les journaliers qui collectent et vendent ces déchets plastiques à ces sociétés se plaignent du prix bas du kilo et des retards dans les paiements. Témoignage.
Nous ramassons un sac, mais nous ne prenons pas l'argent le même jour. Nous attendons après 2 semaines pour prendre l'argent. Travaillons sans gants, sans bottines, et lorsqu'on tombe malade, on se prend en charge.
Mon travail, c'est d'évacuer les plastiques dans la rivière. C'est risqué. Il faut que les autorités du pays s'occupent de nous et prennent notre travail en considération.
Pierre-Albert Nguélielé, professeur à la faculté de l'environnement de l'UNIKIN, parle des dispositions à prendre.
La faute revient à l'absence de la loi sur l'assainissement. Tout le monde est responsable. On ne peut pas dire que la population est tout à fait responsable.
Je vous le disais en titre, le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL affirme suivre de près et attentivement le dossier forage. Le projet est censé alimenter les communautés locales de la RDC en eau potable. Dans un communiqué rendu public hier, le CREFDEL dit apprécier la mise en détention des présumés auteurs dans cette affaire, dont l'ancien ministre de développement rural François Roubota. Mais en même temps, cette organisation exprime ses inquiétudes quant à la tournure que prend l'enquête. Pour son coordonnateur, l'autorisation de quitter le pays accordé à l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi représente une fuite en avant et une manière de brouiller les pistes et de dissimuler les preuves d'un probable détournement des fonds publics. Valérie Madianga, coordonnateur du CREFDEL, s'exprime au micro de Michel Kifindangoy.
Le ministre des Finances est la clé du système de décaissement des fonds dans notre pays parce qu'il agit en dernier ressort. Ce dernier, d'abord, a posé des actes de décaissement des fonds en mode d'urgence et pourtant la procédure de décaissement en mode d'urgence n'est pas autorisée pour le paiement par exemple de ces types d'investissements. Deuxièmement, c'est en principe le ministre du budget qui actionne ces modes de décaissement en mode d'urgence. Ce sont les éléments les plus importants sur lesquels nous pensons que le ministre des Finances ne devrait pas bénéficier de cette faveur. Il est urgent pour que la justice puisse élargir cette enquête. Pour nous, nous pensons que le ministre des Finances a été le déclencheur de toutes les malversations financières que nous sommes en train de décrier actuellement.
Justice toujours, procès pour faute de gestion à la Cour des comptes. Le directeur général intérimaire de la Metelsat, Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Joseph Itella, est accusé de s'être procuré des avantages injustifiés de 5 200 $ au préjudice de l'agence. Il a comparu à la première audience d'introduction hier devant la Cour des comptes. Le magistrat rapporteur de la Cour le charge d'avoir posé des actes de mégestion présumés pour avoir signé lui-même sans qualité des chèques de en dehors de toute procédure requise. La Cour fait ainsi appel à témoins à charge à la prochaine audience prévue le 16 juillet prochain. L'avocat du prévenu, Freddy Moukeba, salue la procédure devant la Cour des comptes et fait savoir que son client fera aussi appel à son témoin. Freddy Moukeba est au micro de Jeff Ngoy.
C'est une cour qui est maintenant bien organisée, organisée pour faire la justice. J'ai aimé quand je lis de l'autre côté, on dit que la Cour des comptes veille au bon emploi des deniers publics. Nous croyons que notre client, on n'est pas du tout qu'il est irréprochable sur tout le plan animé, on peut avoir des erreurs, mais nous estimons qu'il a présenté les choses. C'est ici où on va découvrir toute la vérité qu'il faudra. Alors, si le monsieur a droit de venir et que la justice l'a appelé, quoi de plus normal? Est-ce que nous avons le pouvoir de refuser qu'ils viennent, mais je sais que le témoin, en droit, prête serment de dire la vérité, rien que la vérité, et le témoin est poursuivable en droit. Donc, on est tranquille. Nous allons suivre aussi ce dont nous avons cité. Ils vont aussi parler.
Retour au Nord Kivu. Depuis une semaine, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda contrôlent les localités de Kanyabayonga, Kaina et Kirumba dans le territoire de Lubero. L'occupation de ces agglomérations stratégiques par ces rebelles accentue la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Grand Nord Kivu. Entendez par là les villes de Beni et Butembo ainsi que les territoires de Beni et Lubero. Cette région touchée par les tueries des civils depuis plus d'une décennie est désormais prise en étau par le M23 et les EDF. Explication de Martial Papi Mukeba.
Dans son entrée nord, la région de Mavivimba ou Owicha et Ringeti Kainama, dans les territoires de Beni, est la cible des attaques récurrentes des ADF. La population locale, en majorité des agriculteurs, a déjà abandonné ses champs à cause de l'insécurité. La route Owicha-Luna, sur la nationale numéro 4, est voie principale des sorties de plusieurs marchandises à partir de Beni-Butembo vers les Touris, est souvent touchée par des embuscades des ADF. Ces rebelles y incendie régulièrement des véhicules et tue leurs conducteurs. Du côté ouest, la route Mangina-Mandima, qui servait de déviation pour se rendre à Ituri à partir de Mambasa, se trouve dans une zone ciblée depuis quelques mois par des attaques des ADF. En fait, à l'entrée sud du Grand Nord, depuis 6 jours, les cités stratégiques et commerciales de Kanyabayonga, Kaina et Kirumba sont occupées par les rebelles du M23. Une situation qui augmente la vulnérabilité des milliers de déplacés, les familles d'accueil et d'autres populations qui vivent dans la région de Beni, Butembo et Lubero, aujourd'hui prises en étau par des rébellions au nord par les ADF et au sud par les M23. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, sachez que dans le Grand Nord Kivu, il n'y a pas que la guerre qui fait des victimes. Il y a aussi la désinformation et les fausses rumeurs qui ont déjà coûté la vie à une quinzaine de personnes, dont 6 militaires des FARDC. Ces personnes tuées par justice populaire sont accusées le plus souvent à tort de collaborer avec l'ennemi, c'est-à-dire les rebelles du M23 ou les EDF. Pourtant, les autorités locales et la MONUSCO n'arrêtent pas de lancer des appels à se méfier des rumeurs. Le point avec Marc Marofimbo.
En l'espace de 2 semaines, ce sont quelques 15 personnes qui ont été tuées dans la région de Butembo et Lubero par justice populaire à cause des rumeurs. Parmi elles, 6 militaires. À Butembo, par exemple, un hôtel a été vandalisé par des jeunes en colère qui, à cause d'une fausse rumeur, accusaient cet établissement hôtelier d'héberger des hauts officiers militaires des FARDC qui, selon eux, auraient dû se trouver sur la ligne de front aux côtés de leurs hommes. Vérification faite après ces incidents, il n'y avait jamais eu d'officiers FARDC dans cet hôtel. À Lubero dimanche, 6 personnes, dont 2 militaires, ont perdu la vie à Kiamboro dans des incidents entre les forces de l'ordre et des jeunes en colère. Ces derniers soupçonneraient les 2 militaires d'être à connivence avec la rébellion du M23. Assez pour que le chef de communication stratégique de l'information publique de la MONUSCO dans la région de Beni sort de son silence. Jean-Tobie Okala rappelle une fois de plus la nécessité de faire attention aux rumeurs et à la désinformation et demande à la population de toujours vérifier les faits avant de réagir.
Nous invitons les jeunes, la population tout entière à faire très attention avec les informations que nous recevons. Dans tous les cas, il faut toujours se renseigner à la source. Il faut toujours vérifier avant d'agir ou d'écrire.
Signalons que depuis plusieurs mois, la MONUSCO Beni multiplie des activités de sensibilisation avec différentes couches de la population sur la lutte contre les rumeurs et la désinformation qui ne cesse de faire des victimes au sein de la communauté. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Entre-temps, sur la ligne de front, les affrontements se sont poursuivis hier mardi entre les rebelles du M23 et les FARDC autour de Kikuvo. C'est sur l'axe Kirumba-Kamandi vers le lac Édouard. Nos sources indiquent que les rebelles auraient occupé ce village. Pendant ce temps, une accalmie précaire a été observée le long de la nationale numéro 2 où les rebelles auraient avancé lundi jusqu'à occuper Matembe entre Kassé et Alimbongo. Pendant que les affrontements se poursuivaient dans cette zone du territoire de Lubero, nos sources à Kanyabayonga parlent d'un important mouvement de retour des populations dans les territoires de Rutshuru. Ces habitants disent être fatigués de mener cette vie de déplacés au sud de Lubero et décident ainsi de retourner dans Bwito et vers Kiwanja.
Actualité internationale.
Une enquête préliminaire est ouverte en France pour des soupçons de biens mal acquis visant le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. En effet, fin 2023, une enquête de Mediapart faisait état de dépenses s'élevant à plus de 900 000 euros pour l'achat des costumes, chemises et des vêtements de luxe. Mediapart révélait des versements opérés depuis une mystérieuse société baptisée MHK Full Business, enregistrée à N'Djamena, la capitale du Tchad. L'enquête préliminaire a été ouverte dès janvier par le parquet national financier pour détournement des fonds publics et RSL.
L'invité.
Nous sommes à Kinshasa. Le centre hospitalier Mankolé organise depuis le 1er juillet une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'hôpital compte maintenir cette activité à long terme pour soigner plus de femmes. Pour en parler, nous recevons Dr Céline Tendobi, gynécologue obstétricienne au centre hospitalier Mankolé. Elle est avec Arcel Kadjourou.
Bonjour Dr Céline Tendobi. Quelle est la cause du cancer du col de l'utérus?
Le HPV, tous les papillomavirus humains, est la cause principale du cancer du col de l'utérus. Ce virus peut être contracté par le rapport sexuel. On classe cette pathologie ou ces virus dans les groupes des pathologies sexuellement transmissibles.
Pourquoi avoir organisé cette campagne?
Étant donné que ce cancer est la première cause de mortalité en cancer dans nos milieux, nous avons voulu aussi diagnostiquer à un stade précoce les femmes avec cancer afin de les soigner et d'éviter qu'elles ne puissent développer à la longue et de pouvoir en mourir.
Pourquoi avoir ciblé cette tranche d'âge?
Nous avons ciblé les femmes dont l'âge varie entre 25 et 65 ans, tout simplement en voyant l'évolution de la pathologie. Donc on suppose qu'une femme qui a commencé les activités sexuelles une moyenne de 10 ans auparavant ou moins peut déjà être susceptible de développer la pathologie. Et donc c'est une marge qui nous permet de ne pas rater les femmes qui seraient atteintes. Et un autre groupe va commencer à partir de 35 ans jusqu'à 65 ans. Donc quand on a atteint 65 ans, normalement, on n'a plus besoin des dépistages. Et si une a commencé les activités sexuelles précocement, à l'âge de 25 ans, on peut déjà l'examiner.
Quels sont les symptômes que peuvent manifester une femme atteinte du cancer du col de l'utérus?
Au tout début, lorsque la pathologie ne s'est pas encore déclarée, normalement, la femme ne présente pas des signes. Et c'est ce que nous voulons diagnostiquer lors de notre campagne. Lors du dépistage, elle peut se découvrir malade ou être saine. Mais au fur et à mesure que la pathologie évolue, vous aurez certains symptômes comme des douleurs au niveau du bas-ventre, des saignements lors de la toilette intime, des saignements lors des rapports sexuels, des saignements lors d'un examen gynécologique et parfois lors de la défécation. Et après cela, la femme va présenter des sécrétions malodorantes, louches, parce que la maladie est arrivée à un stade très avancé.
Et que faites-vous lorsque la femme est positive au dépistage?
Lorsque la femme vient avec des lésions précancéreuses qui sont visibles à l'inspection visuelle, faisons la thermoablation pour pouvoir détruire les cellules qui sont déjà atteintes par le virus.
Quel conseil donnez-vous aux femmes pour se protéger?
D'abord, pour conseiller une femme par rapport à la protection contre les cancers du col de l'utérus, il faut voir les facteurs principaux qui sont à la base du cancer. Nous avons parlé du human papillomavirus, les papillomavirus humains. Conseiller aux femmes de ne pas commencer précocement les activités sexuelles. Et les femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels, donc la promiscuité, elles vous exposent à contracter le HPV et à la longue si vous ne vous faites pas soigner. À développer les cancers du col de l'utérus. Il y a également comme facteur de risque l'alcool, le tabac. Il y a également la prise des pilules œstroprogestatives de façon prolongée.
Et qu'attendez-vous par précocité du rapport sexuel?
La précocité des relations sexuelles fait allusion aux jeunes filles de moins de 15 ans.
Est-ce que les femmes enceintes peuvent se faire dépister?
Normalement, les femmes enceintes ne doivent pas se faire dépister. Parfois, nous dépistons les femmes enceintes au tout début de leur grossesse. Mais étant donné que l'imprégnation hormonale au niveau du col de l'utérus peut faire en sorte que les images puissent prêter à confusion à une pathologie lorsque la pathologie n'y est pas, nous conseillons aux femmes enceintes d'attendre après l'accouchement, la période du postpartum, environ 12 semaines après, pour pouvoir, ou 6 mois, pour pouvoir se faire dépister.
Quand est-ce qu'une femme peut encore revenir pour se faire dépister?
Alors, une personne qui n'a pas ces virus peut attendre jusqu'à 5 ans avant de se faire dépister. Le test que nous réalisons ne prend qu'une heure. Lorsque la femme se fait prélever, une heure après, elle a les résultats.
À quand la date de la fin de cette campagne?
Nous voulons que cette implémentation reste pour toujours ici à Monkole, ici à Mongafula. Nous avons les matériels suffisants et les possibilités d'augmenter la quantité de matériel dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à les faire régulièrement. Elle doit être pérenne ici à Mongafula pour la République démocratique du Congo.
Merci à vous, docteur.
Docteur Céline Tendobi, gynécologue obstétricienne au centre hospitalier Monkole ici à Kinshasa, répondait aux questions de Arcel Kajourou. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.